mais si on parle des fous, c'est parce qu'on suppose qu'il y a des gens normaux. Alors, s'il y a des gens normaux dans la salle, j'aimerais bien qu'ils lèvent la main. Qu'est-ce que c'est, finalement, quelqu'un qui serait normal, hein? Quelqu'un qui serait normal, c'est quelqu'un qui pourrait trouver en lui tout ce qu'on trouve écrit dans un manuel de psychiatrie. Parce que c'est ça qui nous constitue. On a tous des traits névrotiques, des traits psychotiques, des traits pervers, etc., etc. C'est ça qui nous constitue. Pourquoi on a peur des fous? Pourquoi on a peur des psychiatres? Parce qu'on pense que les psychiatres sont fous. Pourquoi on a peur des fous? Mais parce que c'est un miroir. C'est là qu'on a peur de se refléter. Et donc, plus on les éloigne, si le fou c'est l'autre, moi je ne suis pas fou. Et je pense, par rapport à la question que vous posez, l'enjeu, il est à cet endroit-là. On devient véritablement fou quand, au lieu d'avoir l'ensemble de ces dispositifs dont on peut user, hein, du côté de la névrose, et voilà, du côté de la psychose, du côté de la folie, on est réduit à un seul. À ce moment-là, on est malade. Hein, quand, face à ce qui se passe dans notre vie, on n'a plus qu'une seule manière de se défendre. C'est ça qui fait qu'on est malade. Mais sinon, on dispose de tas d'éléments, y compris un petit brin de folie qui fait beaucoup de bien, hein, quelque chose qui nous écarte radicalement de la norme. Et si on sait l'accueillir en soi, c'est certainement quelque chose qui nous rend créatifs. Et on ne peut pas non plus s'identifier à ça.
Voilà ce que je voulais dire. Merci. Vous voulez intervenir aussi, Michel Patrice, toujours sur ce tableau, puis après madame, et madame, et puis madame.
Une réponse. Un peu latéral à la question qui est fou, qui n'est pas fou. Bon, fou n'est pas un diagnostic, Dieu merci, et il n'y a pas de critères, ni dans des scènes ni ailleurs, pour dire qui est fou, qui est normal, etc. C'est un signifiant qui circule, qui fonctionne bien. Et il est question aujourd'hui de plus en plus, dans un domaine que nous n'avons pas évoqué encore ici, la psychiatrie médico-légale, de la question de qu'est-ce qui fait qu'un acte est fou. Hein. Je ne vous passe pas ces détails sur l'actualité, sur toutes les angoisses, les inquiétudes qui nous hantent actuellement. Et on se pose beaucoup de questions et on trouve des réponses à ces passages à l'acte suicidaires, des kamikazes, des personnes qui font des massacres sur les campus dans les universités aux États-Unis ou ailleurs. Alors, il y a quand même quelque chose peut-être de nouveau, ou peut-être qu'il nous manque encore des outils psychiatriques, psychopathologiques, théoriques, pour appréhender ce qui se passe actuellement. Ce qui est fou, selon moi, ce qui définit la folie de l'acte, c'est qu'il n'y a plus aucun lien de parole avec celui que vous avez en face de vous, c'est-à-dire qu'il est d'emblée dans la position d'une vérité, d'un justicier et d'un meurtrier. Comme on l'a dit, la question se pose certainement en amont, comment peut-on en arriver là? Alors, je vous donne un souvenir d'experts en psychiatrie qui apporte un début à une réponse. Il y a bien des années, les commerçants du centre de Strasbourg se sont plaints, ont manifesté parce que se multipliaient sur le parvis de la cathédrale des marchands ambulants, généralement africains, et qui gênaient le commerce et importunaient, selon eux, les touristes. Et puis, il s'est trouvé un sujet dont peut-être le profil était psychopathique, qui, dans ce climat de tension, a acheté une carabine et depuis la fenêtre de sa chambre, a tiré sur un des marchands ambulants. Autrement dit, il s'est trouvé en position de maillon faible, de celui qui passe à l'acte, qui met en acte ce que les autres disent à mots couverts, ou, je dirais, fantasme sans pouvoir l'exprimer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous en sommes un peu là, à savoir que des cultures, je peux en témoigner, je suis assez vieux pour ça, des cultures ont été là aussi humiliées, blessées, par le colonialisme, par le post-colonialisme, que une génération a en quelque sorte gardé le silence, refoulé tant de haine, tant d'humiliation, et qu'il a fallu le saut d'une voire deux générations pour que résurgissent, alors sous forme d'actes fous, de discours totalitaires, de discours radicaux, résurgissent cette violence. Voilà, c'est une piste de réflexion.
Bien, donc. Et puis on donnera aussi la parole à madame pour poser deux questions en même temps. Merci.
Bonjour, je m'appelle Alix. Donc en fait, ma question se lie un petit peu avec ce qui a été posé. Justement, le DSM classifie plus de 500 troubles mentaux. Je me demandais donc pareil, à quel moment on différencie les normales et pathologiques. Et du coup, mettre en lien l'expérience de David Rosenhaus, qui a fait l'expérience dans les années 70, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une expérience, il a choisi 12 sujets sans esprit, il les a, bon, c'était dans les années 70, il les a fait entrer en leur donnant des choses à dire, donc ils sont allés consulter auprès d'hôpitaux psychiatriques. Et ont été tous déclarés, voilà, tout simplement. Et David Rosenhaus, ce psychologue, a mis pour le dernier plus de 50 jours à faire sortir son sujet qui en fait jouait un rôle. Voilà.
Alors peut-être la deuxième question, j'ai vu madame tout à l'heure. Ah ben oui, elle est là. Ok, elle est juste là devant les slides. Après Marie-Pauline, hein. Voilà. Donc la deuxième question. Merci.
Bonjour. Alors,
dans le micro, s'il vous plaît.
C'est plutôt pour revenir un tout petit peu sur ce que Catherine Josset m'a dit. Alors, je ne me porterai pas en flanc contre la psychothérapie, puisque je suis moi-même psychanalyste. Mais par contre, ce qu'on me dit, allez, il faut parler de psychothérapie, il faut exprimer tout ça. Ben, je dis non, parce que finalement, c'est quand même un petit peu... la réponse systématique. Ah, oh ben t'as un problème? Ben va voir le psy. Ah, oh ben t'as une question? Va voir le psy. Oh, comme si la communication maintenant entre personnes ne pouvait plus se faire, qu'il fallait vraiment un spécialiste. Un spécialiste de quoi? Je me le demande. Et un spécialiste qui me fait très peur, c'est une très grosse tendance de volonté de normalisation sociale. Va voir un psy, pourquoi? Ah, il y a eu un drame, il y a eu un traumatisme. Allez, c'est lui de crise. Et madame, mais vous êtes obligée de parler, vous avez une crise. Voilà, c'est un peu
merci. Merci pour cette. C'était vous aussi. Permettez-moi juste de prendre une troisième question, comme ça je vais avoir grand temps.
Oui, bonjour, Pierre Etoffier, avocate et médiatrice familiale. Je glisse en vitesse que quand j'ai commencé à parler de la médiation familiale en 1989 au tribunal de grande instance de Toulouse, mes respectables confrères me traitaient de folle. Bon, ça a passé depuis, pas ma folie, eux. Donc, j'ai été amenée dans mon travail à rencontrer les difficultés que les parents qui se séparent et qui sont en conflit monumentaux créent à leurs enfants. Et à la limite, dirais-je d'une manière un peu simpliste, finissait par les rendre fous. Et alors, en particulier, il s'est élaboré à partir de cette contrainte d'un parent vis-à-vis d'un enfant que l'on parle du syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire un enfant qui est tellement donné inféodé à la parole de son parent qu'il n'en a plus et qu'il répète celle de son parent vis-à-vis de l'autre, qui bien sûr, l'autre est le mauvais. Alors, je voulais savoir si cette espèce de création de la folie à cause des parents ou d'un des deux parents, ce syndrome, ce que vous en pensez, et à la limite, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut traiter les parents, bien sûr, entre guillemets, mais aussi comment on peut aider les enfants? Moi, je les ai beaucoup aidés, on les renvoyait en effet vers les lieux de parole où ils pouvaient s'exprimer en dehors de ce que la justice peut aider ou pas aider. Merci.
Merci. On vous écoutera, vous êtes déjà trois questions. Il nous reste encore un quart d'heure, je crois. Attendez, je vais. Non, 20 minutes.
Je vais essayer de vous faire très court sur ce qui m'est posé à moi, c'est-à-dire les parents. Alors, oui, il y a par exemple des parents qui sont psychotiques et qui incluent l'enfant dans leur délire, mais depuis qu'il est né, et donc du coup, au bout d'un moment, l'enfant il est complètement désubjectivé et il finit par être un appendice du parent. il faut le repérer assez tôt, et parfois, il y a des modalités de placement de l'enfant, de protection de l'enfant, de visites médiatisées, de tas de choses qui sont mises en place, qui sont très douloureuses, très compliquées, et il faut y travailler. Par rapport à la jeune fille là, qui parlait des gens normaux qui ont été mis à l'hôpital et gardés, bah oui, mais c'est la magie du théâtre, qu'est-ce que vous voulez ? Quand il y a des acteurs extrêmement bons, bah, ça finit par marcher avec les psychiatres aussi. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. Si, non, mais je vais plus loin hein, pour rire, mais c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'idée de continuer à jouer. C'est extrêmement pervers, moi, je trouve, comme système. Parce que quelqu'un qui est mis dans le jeu sur une consultation, il se fait avoir. Bon, ok, après, il dit non, je jouais. Bon, là, évidemment, ça va marcher. Mais s'il continue à donner à moudre au psychiatre, au bout d'un moment, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc attention à trop d'acteurs, ça me semble un peu compliqué. Les psys partout. Alors là, on ne s'est pas compris tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que le psy, il ne doit pas être mis à toutes les sauces, à la télé, dans les télé-réalités, où il explique « Ah bah oui, les parents, ils ont dit ça, là, tous les deux, ils se sont dit ça, mais c'est parce que ça, etc. » Dramatique, on se demande comment on peut cautionner des choses pareilles. Donc ça, bien évidemment. Et puis aussi en médecine, où parfois, certains médecins disent « Il me faut un psy pour annoncer telle ou telle nouvelle. » Alors à ce moment-là, on enlève le rôle vraiment humain de la personne qui gère des choses somatiques. Par contre, ce que je disais là, c'est que certains adolescents véritablement malades, c'est-à-dire vraiment déprimés, ils ne vont pas consulter, non pas tellement parce que le réseau n'existe pas, parce qu'il existe, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'est un psy en fonction aussi de tout ça. Si c'est un psy, il est tout puissant, il sait tout de votre tête, il rentre dedans, dès qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va pas bien, paf, il y a une cellule de crise, effectivement, c'est extrêmement persécutant. Donc je crois beaucoup aux actions de médiation. C'est-à-dire mettre en place des espaces de créativité, ça l'enquête l'a montré. Les jeunes, quand on leur demande par quoi vous vous définissez, il y en a beaucoup plus de la moitié qui disent par ma créativité. Ça, c'est un truc pour la prévention extraordinaire. Donc essayons de les faire créer sur, imaginez que votre copain il n'est pas bien, un psy c'est quoi, comment vous lui diriez? Parce que dans l'enquête, quand les copains vont pas bien, ils leur disent d'aller voir le psy. Mais eux, quand ils vont pas bien, ils y vont pas. Donc c'est quoi un psy? Voilà, c'est quoi un psy? Et puis rigolons avec, créons avec, faisons des jeux de théâtre avec, du forum de théâtre avec. Avec aussi des vrais psys qui vont dire, bah oui, on n'est pas partout, on n'a pas besoin d'un psy pour tout. Bah, on va pas les appeler à tous les étages, ça n'a aucun sens. Donc ça me semble quelque chose de très important.
Alors, encore une réponse. Bon, Israël, il a une question.
J'avais une question, oui, qui concerne
tout le monde.
Est-ce que croire veut dire qu'on est fou? Alors, je m'explique et je précise ma question. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent qu'il y a un au-delà, et que dans cet au-delà, on vivra mille fois mieux, et qu'on sera accueilli par, 70 vierges, et pourquoi pas plus, et que moyennant quoi, on peut disparaître de la vie en commettant des actes complètement fous, des actes qui sont fous. Mais est-ce que à la naissance de ça, avant certaines croyances, on disait la Trinité, ou... croyance, c'est fait bénigne, si j'ose dire. Aujourd'hui, il y a des croyances qui sont un tout petit peu plus malignes. Est-ce que le fait de croire veut... Est-ce qu'on peut mettre un signe égal entre croyance et folie?
Alors, des réponses. Et j'ai encore quand même deux dernières prises de parole dans la salle, parce qu'ils attendent depuis un moment.
J'ai peut-être tort, je me sens interpellée. J'ai peut-être tort, je me sens interpellée. On fait référence à un au-delà avec des vierges et des choses comme ça. Donc ça fait tout de suite, suivez-moi au regard. C'est encore une fois le.
Parce que c'est récent.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est une question tout à fait légitime. Ma réponse est catégoriquement non. Ça n'a rien à voir. Hein. Maintenant, elle est catégoriquement non parce que ça n'a pas toujours existé, et d'un.
Ouais.
Hein. Et de deux. C'est des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité, y compris une vulnérabilité certainement psychique, et qui, ne trouvant peut-être pas d'espace de parole, d'espace d'expression, d'espace de reconnaissance, vont se laisser manipuler, c'est le cas de le dire, se mettre sous influence, et passer à l'acte. Le passage à l'acte n'est qu'une extériorisation de mon point de vue, d'une manière générale, de quelque chose qui était là et qui a trouvé des circonstances pour s'exprimer. Je vais vous dire que je ne suis pas toute jeune, je crois que ça se voit, ces histoires de vierges au paradis, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à il y a 10 ans. Et pourtant, je suis née dans une famille musulmane, pratiquante, j'ai vécu dans un milieu hyper traditionnel. C'est des histoires qui font partie des fantasmes. Je pense que ce sont même des fantasmes archaïques, si je peux m'exprimer ainsi, sous le regard des psychiatres. Ce sont des fantasmes archaïques qui s'expriment dans les sociétés d'une manière ou d'une autre et qui, à un moment, pour des raisons franchement politiques, ont été instrumentalisées, diffusées. Comme on dit en arabe, il y a une expression qui dit « Ce qui a fait ça savait très bien ce qu'il faisait. »
Et ce qu'il fait encore. Oui, Catherine Jussel, Marc, vous souhaitiez répondre.
Moi, je dirais Israël que croire, c'est la vie. On ne peut pas, en tant qu'être humain, perpétuellement être dans une pensée uniquement scientifique qui nous permettrait de vérifier tout ce à quoi on a accès. Sinon, je sais pas, le poète, on dirait « Mais alors, il est fou, il fait des métaphores. » Ça me rappelle un patient dit, qui disait tu peux pas ne pas prendre ton traitement, tu es en train d'être. Tu ne seras pas à tes examens, c'est comme si tu faisais les vrais sans oxygène. Et à ce moment-là, il me dit la neige, les vrais, le froid, il commence à se lever. Je lui dis non, qu'est-ce que je t'ai dit? Vous m'avez dit, c'est comme. Ah oui, vous faites une analogie. Et il s'est rassis. Ça, c'est compliqué. Donc nous, évidemment, on croit à la poésie, on croit à la musique, on peut croire à une religion. On peut. Ce qui est compliqué, c'est quand une croyance élimine la pensée de l'autre. C'est-à-dire qu'une croyance, elle doit être conflictualisée, elle doit être échangée, on n'est pas d'accord. Mais quand elle commence à annihiler la pensée de l'autre, là, c'est là où ça devient compliqué. On a quand même eu, nous, l'Inquisition, quoi. C'est vieux, mais c'était ça, vraiment. Je veux dire, les gens qui. Bon, il y a plein dans l'histoire, plein de trucs. On a parlé des psychiatres soviétiques. Enfin, je crois croire, c'est vivre, c'est être humain. Alors, parfois, on est chopé par ça, parce qu'on croit à des trucs, puis on s'aperçoit que c'est lié à notre histoire. Pourquoi on a cru ça et pas autre chose, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne peut pas non plus éliminer la croyance. Au contraire, elle fait partie de la vie.
Voilà, j'ai deux questions ici, et après je reviendrai à vous pour vous permettre de clôturer la table ronde et de passer l'information. Donc à 13h, on est en face à l'Obette. Comme annoncé, on continue sur ce qui était annoncé, donc à l'Obette, à 13h, avec André Consouville. Voilà, monsieur, et puis après, vous monsieur, et puis après je reviens à vous. Hein.
Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un accident, par exemple, grave, un bus qui a brûlé, dans un lycée, un jeune qui s'est fait agresser, qui s'est fait tuer ou blessé, ou quand il y a une catastrophe naturelle, un avion qui s'est crashé, la première chose qu'on dit, qu'on entend, mise en place une cellule psychologique. Alors, est-ce que ça veut dire que les catastrophes ont toujours existé avant? Est-ce que ça veut dire qu'avant, on laissait les gens, on laissait aller vers des pathologies, on s'en occupait pas? Aujourd'hui, ces cellules psychologiques, c'est devenu presque génération spontanée, elles se surmultiplient. Alors, comment expliquer ce phénomène?
Cellules de crise.
Alors, attendez, il y a monsieur aussi qui voulait poser une question, et puis on termine à la tribune si vous le voulez bien.
Bonjour, c'était pas forcément une question, juste pour faire un petit commentaire. J'avais posé la question à mon prof de psycho il y a bien longtemps, en lui demandant pourquoi sur le jeu d'échecs, on appelait une pièce le fou. Et il m'avait dit, ben, c'est la seule pièce qui va toujours tout droit, qui ne peut pas sortir de sa couleur, et qui ne rencontre jamais son homologue fou.
Voilà. Alors voilà, c'est pas vrai. Très beau. Donc, vous retenez juste la question de la cellule de crise, hein, donc qui nous sauve tous. Allez.
Merci, bonjour à tous. Madame, vous avez parlé de l'importance de la confiance en lieu des parents à la naissance d'un enfant. Vous parliez aussi d'ethnopsychiatrie. Qu'en est-il de l'adoption quand un enfant naît dans une culture qui est tout à fait différente, avec des traumatismes physiques, avec une maltraitance probable, avec un abandon violent voire un abandon confié à l'adoption, qui présente évidemment un manque de confiance totalement en lui, qui peuvent ces jeunes amener à avoir des prises de risques importantes, et surtout qui sont dans une fuite très fréquente et avec lesquelles la communication est très difficile pour aider un encadrement. Merci. Voilà, merci à vous. Donc on vous laisse répondre. Allez, vous partagez. Cellule de crise déjà.
Oui, rapidement. Alors, il se trouve que j'ai été chargé par la NAS de l'époque de mettre en place en Alsace la CUP, la cellule d'urgence médico-psychologique, les cellules qui se sont multipliées, dans une sorte de cellule, là, ça se multipliait, et c'est devenu, j'allais dire un cancer, non, c'est devenu quelque chose de totalement stéréotypé. Dans les médias, vous avez raison, on ne peut plus, je dirais, concevoir de catastrophes ou d'événements traumatiques sans qu'on ajoute la cellule de crise est intervenue, etc. Bon, évidemment, ceci donne bonne conscience aux politiques, au gouvernement, à nos dirigeants. Et je suis témoin, j'ai été témoin dans les premières années de la CUP en Alsace, de détournement, d'usage abusif de cette CUP. Par exemple, un jour, on m'a demandé d'intervenir dans une maison de retraite pour préparer les personnes à un déménagement dans un autre établissement dont elles n'avaient pas été informées. C'est-à-dire que, le préfet faisait appel au psy. Bon. Alors, à très juste titre, moi, je dénonce aussi cette espèce de chose informe qu'on appelle les psys. Les psys, on fait appel à un psy comme s'il y avait quelque part un discours qui puisse donner sens à ce qui se passe, et même quelque chose qui n'a pas de sens, une catastrophe, ça, c'est justement l'effroi, le schreck, comme on dit en allemand, l'effraction qui demande de toute façon un long temps de réparation. Je vous rappelle, j'arrête là pour aujourd'hui, que l'écume, ça nous vient là aussi des Amériques. Tout ce que nous viendrons, chewing-gum et western, nous vient des Amériques. Pourquoi ? Parce que le militaire, sur le terrain, quand il est traumatisé, blessé psychiquement, il faut le débriefer le plus rapidement possible pour qu'il y retourne. Voilà. C'est une logique, et les Américains ont été les premiers, les pionniers des cellules psychologiques. Ils ont même, paraît-il, pendant la guerre du Koweït, envoyé des psys en première ligne. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les psys. C'est-à-dire de soigner les traumatisés psychiques tout de suite, comme ça. Paf, vous avez pris une balle. Bon, allez, racontez-moi un peu ce que vous sentez, etc. Mais on arrive parfois à un degré de grotesque, j'en conviens. Ceci dit, les volontaires, qui sont la plupart des volontaires bénévoles, sont des gens de bonne volonté, et parfois rendent service en cas de malheur.
Pour terminer, moi je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser ces cellules pour qu'elles deviennent l'équipe de ce qui n'est pas fait par ailleurs, et enlever ce qui doit être fait par ailleurs. Mais dans certains domaines, elles servent, on l'a vu là récemment, à ce que par exemple certaines familles de blessés ou de gens tués aient pu avoir au moins une référence pour commencer quelque chose et être orientées vers autre chose. Ce système de l'orientation peut être utile dans des choses très lourdes. Par contre, on est bien d'accord, il ne faut pas les mettre à toutes les sauces. Alors, les adoptions internationales, ça revient à ce que disait un peu Israël tout à l'heure, quand une famille a perdu ses bases, quand. C'est parfois très compliqué d'accueillir un enfant à l'adoption internationale quand on sait son passé. Et normalement, là, il y a des gens pour accompagner ça, normalement, dans les systèmes de l'adoption internationale. des psys, des non-psys, plein de gens. Ce qui est parfois compliqué pour les parents adoptants, c'est que comme ils ont eu ce bien précieux qu'ils ont attendu pendant tellement longtemps, ils se donnent un idéal absolument très dur pour eux, très cruel pour eux dès le départ. Et parfois, ils essayent, pour se rassurer, de mettre de côté un peu les blessures de l'enfant. Et c'est dur pour eux d'en parler directement avec l'enfant. Moi, je pense que là, pour le coup, dans ces cas très compliqués, qui ne sont pas la majorité des adoptions internationales, hein, mais pour certains, c'est comme ça. Je pense vraiment que c'est important que les parents tôt puissent en parler avec quelqu'un de confiance, pour essayer de dire, par exemple, ben voilà, quand je le vois tout seul dans un coin, à tourner en rond, à taper par terre, moi, immédiatement, je me rappelle ce qu'il était dans l'orphelinat, ce qu'il n'arrive pas, etc. Je me dis que je ne lui donne pas ce qu'il faut, et alors, du coup, je vais essayer de lui proposer 15 000 activités, et évidemment, le gamin ne va pas supporter, parce que lui, il a aussi besoin de repartir sur ses repères de base. C'est des choses techniques très bêtes, mais ça, ça demande un encadrement. Donc, soit on a des gens de confiance autour de soi qui peuvent arriver à nous aider avec ça, soit là, pour le coup, il faut travailler avec un psy, à mon avis. Ça peut être à certains moments de la vie de l'enfant, sur des étapes. Ça peut être des moments de départ où des enfants arrivent, ils ne parlent pas notre langue et ils sont tellement heureux d'être là. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples de gamins qui sont arrivés, ils ont les yeux grands ouverts, alors ils mangent en même temps trop et en même temps ils apprennent la langue, ils savent parler. En 3-4 mois, ils sont géniaux à l'école, on dit oh là là, ils veulent tout faire et tout. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est compliqué, et à l'adolescence, ça peut redevenir compliqué. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter dans une guidance, dans un travail commun, pas sur la folie, mais sur on a des histoires qui se sont tricotées à un moment donné de notre vie, les uns des autres, nous on avait nos bagages, toi t'avais les tiens, comment on peut faire avec ces valises, comment on peut les rouvrir, comment on peut regarder ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui fait mal de regarder dedans, qu'est-ce qui est réactivé à certains moments. Je dis toujours, par exemple, aux parents qui ont un enfant qui est malade chroniquement, qu'au moment de l'adolescence, ça va leur tomber dessus. C'est-à-dire, pourquoi tu m'as fait malade, quoi? Parce que c'est un outil de la dose, pas méchant de sa part, il fait ce qu'il peut, il faut qu'il grandisse, et bon, voilà une arme. Ça peut être avec les parents adoptants. T'aurais dû me laisser là, bah, finalement c'était dur, mais c'était moins pire que la façon dont on était, etc. Par expérience, quand on arrive à travailler vraiment humainement comme ça, on arrive à s'en sortir. Il y a des passages, parfois c'est très difficile. Moi j'ai eu des enfants qui sont repartis en internat de semaine, par exemple, hein, scolaire. Tellement c'était dur au moment de l'adolescence. Mais à ce prix, les liens ont été maintenus. Et après, les moments, un an, deux ans de difficulté, sont revenus dans la famille. Il faut comprendre que les traumas précoces, ils mettent vraiment des blessures. Mais aussi, alors là, pour le coup, sur un plan neurobiologique, hein, on sait qu'il y a des secteurs de notre cerveau, quand ils ont été traumatisés, ils tournent plus que les autres. Donc il faut les détoxifier. Ça met parfois longtemps avant d'arriver à recréer d'autres petits secteurs qui vont être plus sympas et plus sereins. Donc il ne faut pas se décourager. Moi, ce que je remarque, c'est la souffrance de ces parents. Parce qu'évidemment, ils ont l'impression d'être mauvais, d'être nuls. Et c'est non, non. Parce que tout le monde n'est pas capable d'accueillir un enfant dans ces conditions. Et c'est un geste extraordinairement de vie pour cet enfant. Et au final, généralement, les choses s'apaisent. Donc, par contre, il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver les personnes avec qui on a confiance. Et ce n'est pas forcément un psy au départ. Ça peut être le médecin généraliste, le pédiatre, des amis, et petit à petit, on trouvera le psy avec qui ça marchera. Et il y en aura un, j'en suis persuadée.
Vous avez entendu, bravo. Daniel.
On posait la question tout à l'heure de ces événements, de ces choses qu'on est en train de vivre et qui propagent la peur. Et je me disais que ces jeunes qui souffrent d'une faille identitaire tout à fait majeure et qui se reconstruisent finalement dans une idéologie théologique mal comprise, mal interprétée, ils font symptômes. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'on peut commencer à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ils sont symptômes de quoi, dans ces événements qui nous touchent? Moi je pense, c'est ma position, ils sont symptômes de la déshumanisation de notre société. Elle nous fait retour par cette violence-là. Elle nous fait retour par ces idéologies-là. Et par rapport à cette question-là, on peut faire plus que faire juste un constat. Hein, on a parlé ce matin de la folie, on a parlé aussi de ce qu'elle est en chacun d'entre nous. Je pense que déshumanisation, ça nous concerne individuellement. Ça nous concerne sociétalement, ça nous concerne collectivement, mais ça nous concerne individuellement. Ça veut dire que quelque part se perd quelque chose de notre rapport à l'autre, dans son altérité, dans sa parole. Et par rapport à ça, je pense que c'est une des manières les plus fortes de résister, c'est de faire ce cheminement soi-même. Soi-même, ça veut dire deux mots. Accepter l'étrangéité qu'on a en nous. Comme ça, on n'aura pas besoin de la projeter sur l'autre. C'est-à-dire, à partir du moment où on est capable d'accepter cette étrangéité, la folie en fait partie, eh bien, on ne va pas avoir besoin de désigner l'autre pour se fuir soi-même. Et on pourra essayer de retrouver ce chemin vers l'altérité. Ça, je crois que c'est quelque chose qui nous concerne chacun individuellement.
Emmanuel.
Bravo.
L'étranger en moi, et l'étrange en moi. Emmanuel.
Alors, si les psychanalystes devaient travailler avec les gens du marketing pour une campagne de recrutement de fonds.
Soyons pragmatiques.
Les psychanalystes me poseraient la question, dites aux gens, comment dire aux gens que l'être normal est un être fou qui se refuse de l'être? Et je répondrais en termes de slogan, faisons une campagne qui dit, je suis fou d'être avec une folle, et vous êtes complètement fou d'y croire autant.
Moi, je voudrais terminer par deux choses. La première, j'ai envie de dire que si cellule de crise il y a, je lui souhaite plein succès en cas de catastrophe localisée. Mais le fait est là, c'est que toutes les cellules de crise qui ont été constituées n'ont pour le moment pas pu arrêter la folie humaine qui traverse le monde entier en ce moment. Et ça, ça m'amène justement à dire une deuxième boutade, mais qui n'en est pas une, que j'aime à la folie ce que Daniel Hemmler vient de dire à propos de sa perception justement de cette folie qui traverse l'humanité, cette folie du sang, cette folie qui nous habite et qui s'exprime. Je voudrais revenir encore une fois à la notion du fou. Le fou n'habite pas un lieu, hein. Il est errant. Il n'habite pas un lieu. Il est errant et cela, il n'est pas en lien. Ça interroge le lien social. Et il faut peut-être que nous, qui croyons être pas fous, parce que je ne sais même pas comment, il faudrait peut-être que nous nous interrogions effectivement sur le lien social. Quelle place est-ce qu'il y a dans le monde pour ces personnes dites folles? C'est marrant, tout à l'heure, Thierry disait foufou, c'est pas la même chose que dire fofolle. Bon, mais ce que je veux dire, c'est quelle personne est-ce que le fou a une place dans ce monde contemporain? Posons-nous cette question. Quelle place a le fou? Qu'il passe à l'acte comme ce qui se passe, ou qu'il ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire que le symptôme s'exprime d'une façon ou d'une autre, quelle place est-ce qu'il a dans ce monde d'exclusion, dans ce monde où la seule logique, c'est la logique capitaliste, où tout le monde n'a pas une place? Posons-nous cette question. Et pour ne pas terminer sur une note pessimiste, je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi cette humanité que le fou nous dit, hein, cette humanité qu'il nous dit. Je pense que la majorité des personnes ici ont dû lire l'éloge de la folie d'Érasme, que j'ai connu, que j'ai découvert grâce à un ami ici présent, qui est Fernand de Vicari. Mais si vous avez le temps, allez lire Le fou de Gibran. Hein, et ça vous montrera qu'effectivement, le fou peut nous apprendre énormément de choses et nous ramener à notre humanité. Et c'est exactement ce que je souhaite.
Merci. Merci. Juste un petit rappel, donc tout à l'heure, nous allons essayer de savoir si le malheur est pathologique avec André Constantin, et c'est à l'Opette. Au revoir.